Météo Marine.
Bruno Allaire.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur les antennes de Radio France Internationale pour ce bulletin météo marine de RFI et RFI Marine pour cette journée du 14 février pour les zones de Flémish, Faraday, Milne, Altaïr, Ridge, Açores, Cadiz, Gibraltar Strait, Colorado, Irving et Météor. Coup de vent à fort coup de vent localement tempête en cours ou prévu. Voici la situation générale pour cette journée du 14 février à 0h temps universel et évolution. Une dépression 1007 hectopascales par 41 nord et 31 ouest se décale vers le sud. Elle se creuse à 992 hectopascales par 33 nord et 29 ouest. Demain le 15 à 0h temps universel puis par 30 nord et 28 ouest en fin de période. Autre dépression 1010 hectopascales, celle-ci par 31 nord et 16 ouest, est absorbée par la première dépression par la suite. Un anticyclone 1037 hectopascales, 42 nord et 50 ouest, se décale lui vers l'est. Il est prévu 1032 hectopascales sur l'ouest de Milne plus tard, avec une dorsale associée qui s'étend vers le sud-ouest jusqu'à est Bermude. Affaiblissement de l'anticyclone et de sa dorsale à l'approche d'un Talweg par l'ouest en fin de période. Voici maintenant les prévisions par zone jusqu'à demain vendredi 15 à midi, temps universel. Pour Flémish, sur l'ouest de la zone, devenant variable anticyclonique 2 à 4, puis s'orientant au sud et fraîchissant 6 à 8 plus tard, localement 9, sur l'extrême nord-ouest avec de fortes rafales. Sur l'est, vent de nord 5 à 7, temporairement 8, sur le sud-est au début, mollissant nord à nord-est 4 à 6 plus tard et virant sud à sud-est 4 à 6 par l'ouest en fin de période avec une mer forte à très forte, devenant localement grosse sur le nord-ouest en fin de période. Pour la zone de Faraday, sur l'ouest de la zone, vent de secteur nord 6 à 8, parfois 9 au début, mollissant 6 à 7 plus tard, puis virant secteur est 3 à 4 en fin de période. Forte rafale sur l'est de la zone, secteur est 4 à 5, mollissant bientôt 3 à 4 avec une mer forte à très forte, localement grosse sur l'ouest et des pluies. Pour Roméo, vent de secteur est 4 à 5, parfois 6 sur le nord-est et une mer forte. Pour Milne, sur l'ouest de la zone, vent de nord 4 à 6 devenant bientôt variable anticyclonique 3 à 5, s'orientant sud 5 à 7 plus tard, localement 8 sur l'extrême nord-ouest. Sur l'est de Milne, vent de nord 7 à 8, localement 9 sur le sud-est avec de fortes rafales, mollissant nord à nord-est 5 à 7 en fin de période. La mer est forte à très forte, localement grosse sur le sud-est avec une houle de nord-ouest et des averses sur l'est qui iront en s'atténuant. Pour Altaïr, sur l'ouest, vent nord 8 à 9, mais 10 au début, mollissant 6 à 7 à la nuit, virant secteur nord-est 4 à 6 plus tard avec de fortes rafales sur l'est. Vent de secteur sud-est 5 à 6, revenant bientôt secteur est avec des rafales, une mer forte à très forte, localement grosse sur l'ouest avec des pluies et des grains. Sur Charcot, vent de secteur est 4 à 5, localement 6 sur le sud-ouest, la mer est forte avec des pluies au sud. Si vous êtes sur la zone Ridge, sur l'ouest, variable anticyclonique 3 à 5, s'orientant bientôt sud 4 à 6 par l'ouest, fraîchissant 7 à 8 sur le nord-ouest plus tard. Sur l'est de cette même zone, vent de nord 8 à 9, temporairement 10 sur l'extrême est au début, mollissant 5 à 7 en fin de période avec de fortes rafales. La mer est forte, elle aussi à très forte, avec une houle de nord-ouest, averses orageuses sur l'est s'atténuant plus tard. Pour les Açores, sur l'ouest, vent de nord à nord-ouest 8 à 9, temporairement 10 au début, virant bientôt secteur nord, mollissant 6 à 7 plus tard. Sur l'est, vent de secteur sud-est 4 à 6, virant bientôt secteur est 5 à 7, forte rafale, mer très forte à grosse, localement très grosse sur l'ouest avec des pluies orageuses et des grains. Pour Joséphine, vent d'est à sud-est 3 à 5, fraîchissant bientôt 4 à 6, des rafales, une mer forte, localement très forte sur l'extrême ouest, des pluies et des grains orageux. Pour Porto, vent de secteur est 3 à 4, parfois 5 au sud, la mer est agitée, parfois forte. Sur São Vicente, vent de secteur est 4 à 6, mer agitée à forte et des grains orageux. Sur les secteurs de Cadiz et Gibraltar Strait, vent de secteur est 5 à 7, localement 8 dans le détroit et voisinage, avec des rafales. La mer est forte, localement très forte dans l'axe du détroit, avec des grains orageux. Est Bermude, vent de sud à sud-est, 5 à 6, parfois 7 sur l'ouest, virant sud-ouest 5 à 7 sur le nord-ouest, et mollissant 3 à 4 sur le sud-est plus tard, puis virant nord-ouest 4 à 5 sur le nord-ouest de la zone en fin de période, avec une mer forte et une houle de nord-ouest également, averse sur le nord-ouest plus tard. Pour Colorado, sur l'ouest, secteur nord-est 4 à 5, devenant progressivement variable anticyclonique 3 à 5 par l'ouest plus tard. Sur l'est, secteur nord 6 à 8 pour le vent, fraîchissant bientôt 9 sur le nord-est avec de fortes rafales, et mollissant 6 à 7 en fin de période. La mer est très forte à grosse sur l'est avec des averses localement orageuses sur l'est également. Pour Irving, sur l'ouest, vent de secteur nord-ouest 7 à 9, virant secteur nord plus tard. Sur l'est d'Irving, secteur sud 3 à 5, fraîchissant bientôt 5 à 7, temporairement variable. Forte rafale de vent, mer forte à très forte et localement grosse à très grosse sur l'ouest de la zone, pluies orageuses et grains. Pour Madeira, variable dépressionnaire 2 à 4, il s'oriente bientôt sud à sud-est, fraîchissant 3 à 4 sur l'est et 5 à 6 sur l'ouest, puis 6 à 7 plus tard. Avec de fortes rafales, la mer est forte, devenant localement très forte sur l'extrême ouest plus tard, et des grains orageux. Pour Casablanca, vent de sud-est dominant 3 à 4, ou variable parfois 5, mer agitée à localement forte et des grains orageux. Sur Agadir, vent de secteur sud 4 à 5, mollissant 3 à 4 plus tard, la mer est agitée, grains orageux. Tarfaya, vent de sud à sud-ouest 3 à 4, revenant sud à sud-est plus tard, la mer est agitée avec une houle de nord-ouest. Quelques averses orageuses iront en s'atténuant. Sur Météor, ouest de la zone, vent de nord-ouest 5 à 7, fraîchissant 6 à 8, plus tard parfois 9 au nord, près de la dépression. Sur l'est de Météor, ouest 3 à 5, revenant sud-ouest 4 à 6, plus tard fraîchissant 5 à 7, localement 8 au nord en fin de période. Avec de fortes rafales, la mer devient forte à très forte, puis localement grosse sur l'ouest plus tard, avec une houle de nord-ouest et des pluies et des grains orageux par le nord. Sur le secteur de Canarias, vent d'ouest à sud-ouest 3 à 4, revenant sud 3 à 5 d'est en ouest plus tard, et fraîchissant 4 à 6 en fin de période, la mer devient agitée à forte avec une houle de nord-ouest, des pluies orageuses et des averses sur l'ouest plus tard. Pour le Cap Blanc, vent de secteur nord 2 à 4, revenant progressivement sud-ouest sur le nord-ouest, fraîchissant 5 sur le nord-ouest en fin de période, la mer est agitée, devenant forte sur le nord-ouest plus tard avec une houle de nord-ouest. Cap Timiris, vent de nord à nord-est 4 à 5, mollissant 3 à 4 plus tard, la mer est agitée, localement forte, en s'atténuant, vent houle de nord-ouest. Pour Cap Verde, sur le nord de la zone, secteur nord-ouest 3 à 4, fraîchissant secteur ouest 3 à 5 plus tard, puis 4 à 6 avec des rafales. Sur le sud de Cap-Verde, nord-est 3 à 5, mollissant 2 à 4 plus tard, mer agitée à forte devenant très forte sur l'extrême nord en fin de période, houle de nord-ouest avec quelques averses au nord plus tard. Pour Alizé, ouest, vent de secteur nord-est 4 à 6, parfois 7, mer forte temporairement très forte au sud au début avec une houle de nord et des grains locaux. Sur Est Antilles, vent de secteur est 5 à 6, parfois 7 au sud au début, mollissant 2 à 3 sur l'extrême nord plus tard. La mer est agitée avec une houle de nord. Enfin, Nord Antilles et Sud Antilles, vent d'est 5 à 6, mer agitée à forte avec des creux de 3 mètres 50, avec également des grains isolés. Puis je vous rappelle rapidement que si vous êtes sur les secteurs de Flemish, Faraday, Milne, Altaï, Ridge, les Açores, Cadiz, Gibraltar Strait, Colorado, Irving et Météor, un fort coup de vent et localement même tempête est en cours ou prévu.
RFI, ensemble, parcourons le monde. Le quotidien de la mer, Ariel Kassim.
Et tout de suite, une fois n'est pas coutume, nous allons rejoindre Ariel à Bruxelles, au milieu des bateaux, ça va vous surprendre.
Oui, effectivement, Bruno Allaire. Je suis non à Bruxelles, mais à 60 km, puisque se tient un grand le salon nautique belge qui s'appelle donc le Belgium Boat Show, qui réunit 250 exposants, et c'est un salon en 7 halls. Et c'est un événement qui est assez intéressant puisqu'ils essaient de démocratiser la plaisance ici en Belgique. Et nous sommes à côté d'un bateau un peu particulier puisque c'est la journée européenne ici, une journée exceptionnelle où tous les collaborateurs de la Commission européenne sont invités à visiter ce salon gratuitement. Et nous découvrons juste à côté de moi eh bien ce bateau qui s'appelle Traité de Rome, un bateau qui a participé à la Whitbread en 77 et qui sera remis à l'eau pour emmener tous les jeunes, eh bien tous les jeunes européens à la découverte des plaisirs de la voile et des côtes européennes. Voilà, et demain nous en parlerons dans une émission en direct sur RFI dans le quotidien de la mer. Donc à tous ceux qui peuvent venir ici en Belgique, à Gand, eh bien n'hésitez pas, c'est un très beau salon.
Merci Ariel. Et puis tout de suite, nous allons quitter les bateaux pour l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. Michel Ignette, le directeur de cet aquarium, au micro d'Ariel Kassim.
Michel Ignette, bonjour.
Bonjour.
Michel Ignette, je rappelle que vous êtes directeur de l'aquarium de la Porte Dorée à Paris. Je tiens aussi à dire que vous êtes le président de l'association des directeurs d'aquarium en France.
Oui.
Et outre-mer aussi, Michel?
Effectivement, on a des collègues outre-mer, notamment en Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, qui font partie de notre association.
Alors, quel est le rôle de cette association?
C'est une association qui permet de faire passer l'information entre nous. On a beaucoup de choses qui évoluent très très vite dans les techniques aquariologiques, donc plus on est nombreux à surveiller ce qui se passe et à être acteurs, puisque nous-mêmes générons un certain nombre d'idées nouvelles, donc on essaye de les diffuser. Et puis d'autre part, ça permet également de faire notamment des échanges d'animaux, mais je crois qu'on y viendra au niveau du corail.
Bien sûr. Alors, quand on parle d'aquarium, il ne faut pas confondre, hein, vous êtes directeur d'aquarium, c'est-à-dire c'est un grand espace ludique, scientifique, offert au public, mais s'il s'agit pas du petit aquarium qu'on a à la maison.
Bon, alors effectivement, les aquariums publics présentent des collections vivantes au public, avec bien entendu le but de présenter les animaux vivants, mais également d'avoir une activité pédagogique, parce que c'est vrai que l'attrait du vivant permet de capter l'attention des visiteurs, et c'est d'autant plus facile de leur faire passer un certain nombre de messages, notamment dans le domaine de la conservation du milieu aquatique.
Et puis, très bientôt, année du corail oblige, vous allez nous proposer une très belle exposition sur les coraux, plus particulièrement ceux de la Nouvelle-Calédonie.
Tout à fait. Alors la Nouvelle-Calédonie est candidate pour le classement d'une grande partie de son lagon au patrimoine mondial de l'humanité. Donc l'UNESCO rendra sa décision en juillet. Et notre exposition qui mettra en valeur ce lagon sera présente à l'aquarium à partir de mi-octobre.
Quelles sont les chances de cette acceptation par l'UNESCO?
Logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais ça, c'est toujours les problèmes politiques, le lobbying, mais bon, objectivement, c'est un excellent dossier.
C'est vrai que nous avons, nous, une superficie qui est fort importante avec tous les départements d'outre-mer et les surfaces et les zones économiques autour de ces îles. Ça représente, je crois, 11 millions de kilomètres carrés au total.
Oui, pour la zone économique exclusive, effectivement, mais si on revient plus vers les récifs coralliens, il faut savoir que la France a la responsabilité de 10% des récifs coralliens du monde. C'est colossal. Et je parle de responsabilité, effectivement, parce que il faudrait que au niveau français on fasse les efforts correspondants tant en recherche qu'en préservation pour que ce patrimoine mondial soit bien préservé dans les eaux territoriales françaises.
Vous allez nous expliquer dans cette exposition pourquoi le blanchissement des coraux, pourquoi justement
alors le blanchissement des coraux effectivement est un phénomène qui inquiète énormément d'abord les scientifiques, mais maintenant je crois les gens qui ont pris conscience de ce problème global. Donc il faut resituer ce qu'est un madréporaire, puisqu'on dit les coraux, bon, on devrait dire les scléractiniaires ou les madréporaires. Bon,
on va dire les coraux.
Il y a un squelette calcaire, donc qui est blanc, c'est de la craie, hein. Donc c'est blanc, c'est recouvert d'une petite pellicule vivante de mésoglée, on va dire, qui est transparente. Donc en réalité, les coraux devraient être blancs. Il se trouve que dans les tissus, donc dans cette mésoglée, il y a des algues symbiotiques qui sont en très très grand nombre, et c'est grâce aux algues qu'on a ces colorations magnifiques que l'on voit sur donc ces madréporaires. Il se trouve que lors de stress et notamment de température, et actuellement on sait qu'avec le changement climatique il y a des épisodes de température beaucoup plus élevés qu'habituellement, lors de ces élévations de température, les madréporaires expulsent les zooxanthelles qui sont dans leur tissu. Alors le problème c'est que c'est un quasi-suicide parce que ces madréporaires dépendent pour leur nourriture des zooxanthelles qui photosynthétisent bien entendu, mais qui n'utilisent pour leur propre métabolisme qu'une faible partie de ce qu'elles ont synthétisé, le reste étant à disposition du madréporaire. Donc les coraux meurent de faim s'il n'y a pas une recolonisation rapide par des zooxanthelles après l'expulsion de celles-ci. Mmh. Alors d'autre part, évidemment, ce stress affaiblit les coraux qui sont susceptibles d'être la proie de maladies notamment, et on a vu des effets retards liés au blanchissement, et c'est vrai que maintenant on commence par des cartographies qui sont faites sur l'ensemble des récifs coralliens du monde à être inquiet quand on voit la quantité de madréporaires qui effectivement ne survivent pas. Or ces madréporaires sont extrêmement importants, y compris pour l'humanité, parce que ce sont ces récifs qui protègent les côtes de l'érosion qui serait évidemment générée par la houle importante, mais la houle est effectivement écrétée par ces récifs coralliens quand ils sont en bon état. Et alors, pire encore, quand il y a des atolls qui sont à une très très faible altitude, évidemment, au-dessus de l'eau, et constitués de matériaux qui peuvent disparaître assez rapidement, puisque c'est du sable plus ou moins collé, je vais dire. Donc si les madréporaires ne jouent plus leur rôle de protecteur par rapport à la houle, eh bien ces atolls sont susceptibles de disparaître. Donc on commence à parler maintenant des problèmes des réfugiés climatiques, et bien entendu les populations qui habitent sur ces atolls sont malheureusement dans les premières visées. Donc il est absolument nécessaire pour ces gens-là, mais également au niveau plus général, que les madréporaires continuent à bien vivre. Il y a ces épisodes climatiques auxquels malheureusement, c'est-à-dire à notre échelle individuelle, on ne peut pas grand-chose. On peut essayer de contribuer chacun à ne pas trop augmenter l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère. Mais au-delà de ça, on peut pas forcément grand chose à titre individuel. Mais par contre, ce qu'il faut absolument, c'est ne pas contribuer à affaiblir encore plus les récifs coralliens par des rejets, que ce soit des rejets agricoles, bon, type pesticides notamment, ou usés et autres. Donc, les coraux peuvent à la limite se défendre par rapport aux agressions thermiques, bon, malheureusement en laissant un certain nombre de cadavres derrière eux, mais il y a quand même des colonies qui arrivent à prospérer malgré tout, mais si elles sont affaiblies par l'action de l'homme, là, il y a très très peu de chances effectivement qu'ils puissent subsister suite à une agression thermique.
Oui, car je crois que les coraux s'adaptent très bien dans une température de 20 degrés à peu près.
Oui, alors les températures minimales c'est de l'ordre de 19-20 degrés et les températures maximales c'est de l'ordre de 28-29 degrés. C'est ça à peu près la frange dans laquelle ces coraux s'épanouissent correctement, et malheureusement on a des exemples maintenant de températures supérieure à 30 degrés pendant des périodes significatives, et donc blanchissement du coraux et les risques de disparition effectivement de certaines espèces, voire de massifs complets qui ne peuvent plus jouer leur rôle.
Mais est-ce qu'on peut regreffer ce corail ?
Alors, il y a des tentatives qui sont faites, donc à petite échelle, oui. Et en aquarium notamment, on en donne l'exemple, puisque maintenant, les aquariums publics ne prélèvent absolument plus de madréporaires en milieu naturel. C'est par de la fragmentation ou du bout qu'on s'approvisionne, j'allais dire, mutuellement, parce que dans chacun de nos aquariums, nous avons des espèces différentes, donc on met en élevage et qu'on envoie aux collègues. Et sur la communauté aquariologique, notamment en France, on est producteur net maintenant de madréporaires et non plus consommateur. Donc ça, c'est un énorme progrès. Quand j'ai commencé ma carrière, malheureusement, je dirais qu'on n'arrivait pas à tenir les madréporaires en aquarium plus de 6 mois. Il y a eu une révolution qui a été l'amélioration de l'éclairage, les halogénures métalliques notamment, et puis ensuite on a découvert un certain nombre de choses, le rôle des nitrates, maintenant des phosphates, voire des silicates. Enfin, on fait des progrès sans arrêt, mais maintenant on est à une étape où effectivement on arrive à parfaitement bien élever un certain nombre de madréporaires, et certains collègues sont en train de travailler maintenant sur la reproduction sexuée, puisque là c'était de la fragmentation, donc du clonage, je dirais, mais maintenant la reproduction sexuée commence à être un sujet, bon, récent, mais semblait prometteur. Et nos collègues d'Océanopolis, par exemple, maintenant ont couramment 5 espèces qui sont en reproduction sexuée, ce qui est quand même un gros progrès. Et il y a un programme européen qui s'appelle Coral Zoo, auquel les ACOM européens collaborent pour essayer de développer ce genre de choses.
Comment fera-t-on si dans le futur les eaux de mer continuent de se réchauffer? Est-ce que ça voudra dire la mort annoncée des coraux, ou alors
la mort annoncée de certains coraux, hein. Je pense que on est quand même la nature a fait ses preuves, je dirais, et des événements climatiques, il y en a eu dans le passé et les coraux sont encore là. Donc en réalité, on va avoir une modification, c'est sûr, qui va se faire, mais si on n'agresse pas trop les récifs coralliens, on peut espérer que par eux-mêmes, ils trouveront, je dirais, des réponses à une augmentation de la température.
Donc rendez-vous chez vous, c'est-à-dire dans cet aquarium de la Porte Dorée, pour cette exposition qui ouvrira ses portes en fin d'année, je crois c'est au mois d'octobre.
Mi-octobre, oui.
Pour nous présenter bien la situation du corail en Nouvelle-Calédonie, qui possède un récif corallien.
Oui, il y a un lagon fantastique, hein, et effectivement, c'est un trésor de l'humanité.
Merci beaucoup, Michel Ignette. Bon vent à tous, à demain.